Pascal Prigent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Genfit. On va revenir sur vos dernières actualités. Vous avez annoncé un certain nombre d'informations concernant la mise à jour de vos produits et puis de nouveaux programmes cliniques. Alors, un petit mot pour commencer. Un an après l'échec de la phase 3, qu'est-ce que vous retenez au-delà de cet événement-là de 2020?
Je dirais que ça a été une année pour Genfit pour vraiment se réinventer. Comme vous l'avez dit, ça fait un an presque jour pour jour qu'on a annoncé des résultats décevants dans la phase 3 pour Elafibranor Nord. On a pris le temps de vraiment analyser les données et on a décidé d'arrêter tous les programmes qui avaient trait au développement dans la NASH. Et on a choisi de se recentrer sur deux programmes phares qui sont d'une part le développement d'Elafibranor Nord dans la PBC, d'autre part le programme de diagnostic dans la NASH NIS4. Vous vous rappelez qu'on avait également un enjeu court terme extrêmement important, un enjeu financier, puisqu'on avait une dette obligataire qui venait à échéance en octobre 2022 pour 180 millions d'euros. Donc, il fallait absolument restructurer cette dette pour permettre à la société de continuer. Donc, on a lancé ces deux programmes prioritaires. On a restructuré la dette, hein, puisqu'on a annoncé en début d'année que nous avions en fait obtenu un accord avec les porteurs de l'obligation ainsi que nos actionnaires. Et aujourd'hui, la dette résiduelle est de un petit peu moins de 60 millions d'euros. Donc, elle a été divisée par trois. Et puis surtout, la maturité a été repoussée à 2025, fin 2025. Donc, ce problème de dette n'est plus un problème. C'est réglé. On est donc maintenant dans une logique de rebond. La chose qui nous restait à annoncer, c'était ce qu'on faisait en termes de R&D. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons annoncé cette restructuration de la R&D et le focus sur deux axes prioritaires. D'une part, la CLF, d'autre part, les maladies cholestatiques. Donc, la CLF, en fait, ça se caractérise par. C'est une maladie où il y a une décompensation hépatique donc d'un patient cirrhotique qui est accompagné d'une défaillance d'un ou plusieurs organes. Et c'est une maladie grave, hein, puisque la seule solution, c'est la greffe de foie, et sinon, il y a une mortalité importante. Et les maladies cholestatiques, c'est des maladies qui se caractérisent par une mauvaise évacuation de la bile qui revient dans le foie et qui attaque le foie. Donc, c'est les deux domaines dans lesquels on se focalise maintenant.
Alors, il y avait effectivement vous parliez il y a quelques instants du marché de la PBC. Il est forcément moins important que le marché de la NASH, hein, quand on l'évalue. Quelles conséquences pour Genfit?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle d'un marché moins important, on se réfère bien évidemment au nombre de patients, qui effectivement est moins important. Ceci dit, le marché de la PBC est loin d'être négligeable, puisque les niveaux de prix sont beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les ventes d'Intercept, hein, qui est aujourd'hui qui est le seul à avoir un produit qui est approuvé dans la PBC. En seconde ligne et qui a des ventes qui sont un peu au-dessus de 300 millions de dollars par an et qui sont en croissance à deux chiffres depuis le lancement. Donc c'est un marché pas négligeable qu'on estime à horizon 2025, c'est-à-dire à peu près au moment où on devrait lancer à 1 milliard, 1 milliard et demi, suivant les estimations. Et aujourd'hui, comme je le disais, un seul produit sur le marché et deux produits en développement. Donc, même, je dirais, même si on n'avait qu'un tiers de ce marché, on voit que les perspectives sont quand même extrêmement, extrêmement intéressantes. Et comme en plus, on a un profil de produit très intéressant, avec à la fois, sur la base de ce qu'on a vu en phase 2, une belle efficacité, mais également un profil de tolérance qu'on connaît maintenant sur la fibre Nord très, très sûr. Et potentiellement un signal qui peut être confirmé en phase 3 sur le prurite, on pense qu'on est vraiment bien placé sur un marché, comme encore une fois, loin d'être négligeable.
Alors, on parlait effectivement de la PBC et de la NASH. La NASH, ça a été pendant plusieurs années, effectivement, ça fait partie des attentes des investisseurs, des actionnaires, bien sûr, de GenFit. Ça n'a pas été, donc, pour vous, un succès. Il se pose la question, on le voit aujourd'hui sur la suite, en disant, est-ce que GenFit va pas avoir à nouveau des années difficiles?
Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas réussi dans la NASH, c'est vrai aussi que personne n'a réussi dans la NASH jusqu'à maintenant. C'est une maladie complexe avec un environnement réglementaire complexe et changeant. Je crois que c'est différent dans la PBC. D'abord, c'est une maladie complètement différente. Hein. On n'est plus sur une maladie métabolique, on est sur une maladie auto-immune. En plus, il y a déjà un produit qui a été approuvé avec Localivan Intercept, donc c'est mieux balisé au niveau réglementaire. C'est plus clair ce qu'il faut obtenir. Et sur la base de la phase 2, on voit qu'on était assez largement au-dessus de ça. Alors, bien évidemment, il faut confirmer ça en phase 3, mais nous sommes confiants. Et l'autre avantage, je dirais, c'est que par rapport à la NASH, on est sur des temps plus courts, puisqu'il y a beaucoup moins de patients inclus dans la phase 3. Et donc, normalement, à l'horizon 2023, donc Q1 2023, c'est ce qu'on a annoncé, on devrait avoir ces résultats et être en mesure de déposer un dossier dans les mois qui suivent.
Alors, vous avez parlé aussi avec votre partenaire, hein, le LabCorp, de tests diagnostiques. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet?
Alors, c'est un projet qui avait commencé, bien évidemment, quand on développait les fibrinogènes à la NASH. Bon, ça n'a pas marché. Ceci dit, on reste persuadé que ce marché de la NASH, il est important et que quelqu'un arrivera un jour à lancer un produit pour aider ces millions de patients. À partir de là, il faudra bien évidemment les diagnostiquer. Et on a toujours pensé que la biopsie ne pouvait pas être la solution pour diagnostiquer ces millions de patients. C'est un geste invasif, c'est cher, c'est compliqué, c'est juste pas possible de traiter un marché de masse en diagnostiquant les gens avec une biopsie. Et les autres options qui existent ont toutes leur complexité. Il faut souvent aller à l'hôpital, il faut du matériel, etc. Donc on pense que une approche par un simple test biomarqueur, un test sanguin, est la bonne approche. Et c'est pour ça qu'on a développé NIS4. On est extrêmement encouragé du retour qu'on a de tous les gens qui aujourd'hui en recherche et développement développent des produits dans la NASH et utilisent NIS4 dans leurs essais cliniques. Donc notre partenaire LabCorp a décidé de lancer, alors sous la marque NASHnext, de lancer le test auprès de tous les médecins nord-américains. Et ce lancement s'est fait il y a quelques semaines maintenant, fin avril.
Alors, on parlait effectivement de la situation financière, de la restructuration de la dette. Bon, il y a eu quand même une consommation au cours des derniers mois. Est-ce que ça va diminuer et quels sont les enjeux pour vous de ce côté-là?
Oui, ça a diminué très fortement déjà, hein, puisqu'on était sur un rythme de consommation de trésorerie de l'ordre de 110 millions par an avant les résultats de Resolvit. On va dire, à peu près divisé par deux notre consommation de trésorerie, hors bien sûr opération de restructuration et rachat de la dette. Donc on a, comme vous le savez, fait un plan de restructuration d'entreprise. On a éliminé tous les programmes qui n'étaient pas des programmes essentiels. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle configuration, on a environ 2 ans de visibilité en termes de cash. Ceci, bien sûr, en incluant les programmes dont je viens de parler et ce qu'on a lancé aussi bien dans la PSC avec notre phase 2 POC qu'on va lancer cette année, ainsi que la phase 1 dans ACLF avec NTZ. Voilà. Donc on a cette visibilité. Maintenant, il est clair que pour aller au-delà, il va falloir probablement faire des opérations et lever des fonds additionnels pour financer, parce qu'on espère évidemment que ces programmes dans la PSC ou dans la CLF vont être positifs, et pour les continuer, il faudra lever davantage de fonds.
Alors, comme pour d'autres entreprises, biotech ou autres, d'ailleurs, il faut mobiliser les actionnaires individuels. Vous en avez pas mal, effectivement, vous, depuis le départ de cette aventure. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui par rapport ben justement à ces prochains rendez-vous de l'Assemblée générale qui va se dérouler bientôt?
Bah, ce que je leur dis deux choses. D'abord, je les remercie pour leur soutien lors de la précédente Assemblée générale, qui nous a permis de restructurer la dette et donc d'éliminer cette menace, on va dire, à court terme. Maintenant, on est dans une logique de rebond, on est dans une logique de se dans une croissance de GenFit autour des programmes dont je viens de vous parler. Et donc, lors de la prochaine Assemblée générale, il faut qu'ils viennent pour s'exprimer par rapport à ce programme. Nous, ce qu'on dit aussi, c'est que lors des prochaines opérations de financement, on aimerait donner la priorité à nos actionnaires historiques. Bon, évidemment, il faudra nous adapter aux conditions de marché, hein, et nous assurer que ce principe permette de répondre aux besoins de l'entreprise. Mais bon, nous pourrions par exemple envisager de réaliser une opération avec maintien du DPS, hein, donc le droit préférentiel de souscription, ce qui permettrait aux actionnaires historiques qui participeraient de maintenir leur participation dans le capital de GenFit, dans de bonnes conditions.
Merci beaucoup, Pascal Prigent, d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui sur les dernières actualités de GenFit.
Merci à vous.